Bienvenue, la culture du football dans le monde arabe, une exposition majeure, c'est en ce moment, c'est l'Institut du monde arabe, c'est à Paris, 11 tableaux comme les 11 joueurs d'une seule et même équipe, on sera de la partie dans un instant. En un clic et face à la mer, rencontre à Tanger de professionnels, des photographes pour la plupart, un espace d'échange pour soutenir des projets parfois atypiques, cela donne envie évidemment d'en savoir plus. Et puis ma voisine, le lancement pile pour la fête de la musique cet été, rendez-vous à partir du 21 juin, ce sera à Rabat avec un comeback entre autres des Black Eyed Peas. On en parle dans un instant dans ce Bain de Culture. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Les Black Eyed Peas sur la scène de ma voisine, ce sera cet été à Rabat, le 25 juin. Un retour en fanfare, on en parle dans la prochaine demi-heure. Auparavant, rendez-vous sur les terrains de foot, les terrains de foot du monde arabe. C'est une exposition en ce moment à Lima, l'Institut du monde arabe à Paris. Le football, ses interférences dans la vie politique, ses stars, ses idoles, une déambulation de l'Égypte à la Palestine, aux côtés entre autres de Larbi Ben Barek, de Rachid Mekloufi, Zinedine Zidane, pour ne citer qu'eux, au milieu de dizaines de pièces historiques. Aurélien Devernois, notre correspondant à Paris, a suivi la commissaire de l'exposition, Aurélie Clémente-Ruiz.
On voulait vraiment partir sur l'idée du football et du monde arabe pour bien montrer que le football, en fait, a cette dimension universelle, qu'il est extrêmement présent dans le monde arabe depuis le début du XXe siècle, mais qu'il est aussi présent en Europe et notamment en France, et que les deux ont toujours eu des liens. Donc l'idée de l'exposition, c'est d'avoir un parcours thématique à travers 11 histoires, comme 11 joueurs d'une équipe, où on raconte aussi bien des moments historiques, on met en avant certains joueurs qui racontent cette passion du football dans le monde arabe, mais aussi montrer que le monde arabe, il influence aussi le football en Europe, et ça depuis très longtemps.
Alors justement, il y a vraiment dans ces salles justement les deux faces d'une même pièce entre la France et l'Algérie. D'un côté, Rachid Mekloufi, et de l'autre côté, Zinedine Zidane, le héros de l'équipe de FLN et le héros de l'équipe de France.
Oui, c'est vraiment ça. L'idée, c'était d'avoir ce balancement, en fait. Alors, même si on est plus dans le monde arabe, dans l'exposition, mais c'était intéressant aussi d'avoir ce parallèle, de mettre en avant certains joueurs qui, parfois, sont un peu tombés dans l'oubli, comme Larbi Ben Barek, ou effectivement Mekloufi ou Zitouni, qui sont des joueurs emblématiques de l'équipe du FLN en Algérie. Et puis, en contrepoint, forcément, en France, on a Zidane. Enfin, quand on pose football et monde arabe en France, on pense tout de suite à cette figure emblématique de Zidane, qu'on présente aussi dans l'exposition, notamment à travers la victoire de 98 en Coupe du Monde, parce qu'il a symbolisé finalement, à lui tout seul, il est devenu une icône de ce lien très fort entre le football et le monde arabe et la France.
D'autant plus qu'il y a une forme de réconciliation finalement entre la France et l'Algérie à travers cette personne de Zinedine Zidane, quoi, parce que c'était compliqué avant avec justement cette équipe de FLN, avec toutes ces stars du championnat de France qui du jour au lendemain ont disparu pour aller défendre les couleurs de leur futur pays.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la France a toujours eu une histoire, enfin le football français en tout cas, a toujours intégré des joueurs de l'immigration. Alors effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui à l'origine venaient des colonies françaises, qui sont venus jouer dans des clubs français et en sélection nationale. L'équipe du FLN, ça a été un coup de tonnerre hein, dans le football français, parce qu'il faut imaginer en 58... 12 joueurs qui disparaissent du jour au lendemain. Alors certains évoluaient dans des clubs, d'autres en sélection nationale. Ils disparaissent vraiment. On met quelques jours à se rendre compte qu'ils sont partis finalement à Tunis former cette équipe qui va promouvoir l'indépendance de l'Algérie. Donc pendant 4 ans jusqu'à l'indépendance en 62, ils vont jouer pour défendre cette Algérie indépendante. Et c'est un engagement politique extrêmement fort, parce qu'à l'époque, il faut imaginer qu'ils quittent leur vie, leur club, leur confort, parce que voilà, c'est des joueurs qui vivent très bien en France, qui ont une famille, et tout ça s'arrête du jour au lendemain pour eux, parce qu'ils ont fait ce choix politique, et ça aura des conséquences sur le football français, puisqu'ils partent juste quelques semaines avant la Coupe du Monde. La France n'a pas vraiment brillé lors de cette Coupe du Monde, aussi parce que ses meilleurs joueurs étaient partis. Et il faut imaginer qu'il n'y aura plus dans l'équipe de France de joueurs d'origine arabe pendant des années. Il faudra attendre les années 70 pour à nouveau retrouver des joueurs d'origine arabe en équipe nationale. Donc ça a vraiment beaucoup marqué le football français.
Oui, d'ailleurs, il y en a qui disent qu'en 58, l'équipe de France aurait peut-être eu son premier titre de champion du monde s'il y avait eu ces joueurs-là, parce qu'à l'époque c'était Juste Fontaine, etc., ils font 3e, et malheureusement, on ne sait pas comment l'histoire aurait tourné avec tous ces joueurs de talent dans l'équipe. Et du coup, après, il faut attendre 40 ans pour avoir la France championne du monde.
Oublier sa carrière pour rejoindre la Révolution. En 1958, Rachid Mekloufi l'a fait. Avec 9 compagnons, il a porté les couleurs d'un pays qui n'existait pas encore. Son pays.
Boumazrek, Haribi, Boubaker, Rouaï, Zitouni, Bekloufi, Kermali, Mekloufi, Brahimi, Bentifou et Bouchouk. Cette photo est un peu historique parce que c'est les 10 premiers qui sont arrivés à Tunis et où on a formé cette équipe éphémère.
Rachid Mekloufi est pour moi l'un des 5 plus grands joueurs de football que j'ai vu. J'étais ébloui par son talent, d'abord par son élégance, il n'était pas très grand, une petite moustache, beaucoup de prestance sur le terrain.
Cette équipe, c'est une équipe merveilleuse, parce qu'on compensait le manque de technique par la volonté, le désir de gagner, par la volonté de faire briller cette équipe et ce pays. Et souvent, on a pensé à l'Algérie.
Bain de culture, l'expo.
On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage.
Dommage, Big Flo et Oli, rendez-vous à ma voisine, ce sera pour le festival et en concert le 23 juin prochain. Retour à l'Institut du Monde Arabe à Paris. 11 tableaux comme autant de joueurs d'une équipe de football. 11 tableaux pour raconter la saga du football dans le monde arabe. Les ultras en Égypte, on va y revenir dans un instant. Rachid Mekloufi, les membres de l'équipe du FLN, Zinedine Zidane, mais au début du XXe siècle, l'histoire de Larbi Ben Barek, incroyable milieu offensif marocain. Aurélie Clémente Ruiz est commissaire de l'exposition. Elle répond à notre correspondant à Paris, Aurélien Devernois.
Ça aussi, c'est une histoire particulière parce que c'est peut-être la première superstar du championnat de France, celui autour duquel les clubs se battent pour obtenir son recrutement et mettre de l'argent sur la table pour le faire venir.
Oui, c'est une histoire incroyable qui est un peu tombée dans l'oubli aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voulait vraiment parler de ce joueur, parce que pour nous, c'est l'une des premières stars du football en France. Alors, c'est un joueur d'origine marocaine qui va commencer à jouer au football au Maroc, ensuite qui va venir en France pour jouer. Il a notamment longtemps joué à l'OM. Il va jouer en équipe nationale française. Et effectivement, à la fois son excellence de jeu, mais aussi son esthétisme dans le jeu, parce que c'est vrai, quand on le voit jouer, c'est un beau et bon joueur. il va beaucoup marquer les esprits. Il faut imaginer aussi que c'est la première fois comme ça qu'il y a un joueur avec une peau très noire qui va évoluer en équipe nationale, donc c'est pas simple. On est avant la Seconde Guerre mondiale quand même, hein. On est dans les années 36, 37, 38. C'est pas si simple, la société française n'est pas extrêmement ouverte à cette époque-là.
État de siège, avenue de l'Opéra, le bureau de location pour France, Italie, est littéralement pris d'assaut. N'oublions jamais que l'événement sportif suscite plus de passion et plus de convoitise.
Il faut imaginer le choc aussi d'avoir ce joueur qui va devenir une vraie star. Alors, il va arrêter de jouer pendant la... Enfin, en tout cas en France, au moment de la Seconde Guerre mondiale, bah, juste pour des raisons historiques évidentes. Il reviendra donc après la guerre pour à nouveau jouer en France. C'est quand même lui qui a la plus grande longévité en équipe nationale. Et à l'époque, c'est le plus gros transfert de joueurs, puisqu'il sera payé 13 millions de francs, ce qui est énorme dans les années 40. Voilà, donc on se l'arrache et il est adulé. Il fait la une des magazines. C'est vraiment une très belle histoire qu'on voulait remettre au goût du jour, parce qu'effectivement, aujourd'hui, peu de gens se souviennent encore de Larbi Ben Marek, alors que ça a été un joueur absolument incroyable.
Et vous avez d'ailleurs une pièce extrêmement rare, c'est l'un des maillots portés par Larbi Ben Marek en équipe de France, qui vient de la collection extraordinaire de feu Jean-Louis Nicolin.
Ouais. Exactement, oui. On a quelques prêts assez extraordinaires de la collection de Louis Nicolin. Certains qui sortent pour la première fois, et notamment ce maillot de l'équipe de France qui est en fait un des plus anciens, je pourrais même dire, je pense, le maillot le plus ancien conservé de l'équipe de France, porté par Larbi Ben Barek. Donc c'est hautement symbolique effectivement d'avoir cette pièce dans l'exposition. C'est ça qui est intéressant. Nous, on s'est amusé en fait dans l'exposition à présenter des documents d'archives comme ça, qui ont une valeur iconique. On a des photos, mais on a aussi des vidéos qui montrent ce joueur en action, parce que ça, c'est extrêmement important de le voir jouer.
Des souvenirs incroyables. Mais parmi les meilleurs souvenirs, quand je suis allé en France, et les copains marocains m'ont dit: Larbi, qu'est-ce que tu vas faire en France? J'ai dit: je vais jouer dans l'équipe de France en 1938. Comment? J'ai dit: je vais jouer en équipe de France. 3 mois, j'ai joué en équipe de France. C'était le 22 janvier contre la Pologne. On les a battus par 4-0.
Midi, bain de culture avec Florence Blanc.
David Guetta à Mawazine, ce sera le 22 juin prochain sur la scène de l'OLM Swissy en pleine lumière. Ça, c'est en ce moment. Le football arabe à l'Institut du même nom à Paris, expo jusqu'à la fin du mois de juillet. 11 histoires, 11 destinées retracées. Alors, entre autres, l'équipe féminine de Jordanie. Il y a aussi cette jeunesse palestinienne qui dribble le mur de séparation, ou bien le Qatar, nouvelle puissance du football. Et puis le football, vecteur de messages politiques. Aurélie Clémente Ruiz est commissaire de l'expo. Elle a fait la visite avec notre correspondant Aurélien de Vernois.
Bain de culture, l'expo.
Alors il y a aussi un pays qui est très représenté dans l'exposition, c'est l'Égypte, forcément, qui est un peu la capitale africaine du football. Hein. On ne sait pas faire injure aux autres de le dire, avec ses grands clubs, Zamalek, Al Ahly, etc. Et avec ses joueurs emblématiques aussi. Il y a un maillot du plus vieux gardien d'une Coupe du Monde, hein, puisque c'est Oussama El Haddari.
L'Égypte, c'est vraiment le premier pays arabe qui va avoir des clubs, qui va se structurer autour du football. Le premier club à l'Ali, c'est 1907 quand même, donc c'est extrêmement tôt. C'est le premier pays arabe aussi reconnu par la FIFA. Et puis, bah, vous le disiez, il y a le derby Zamalek à l'Ali qui, encore aujourd'hui, c'est vraiment un moment extrêmement fort dans la capitale. Donc il y a la liesse populaire, mais il y a aussi des joueurs où aujourd'hui, alors le plus connu, c'est Mohamed Salah, très clairement, même si... Si, alors aujourd'hui, enfin depuis quelques années, hein, il évolue dans des clubs européens, mais il continue à être dans l'équipe nationale égyptienne. Et puis Oussama El Haddari, qui donc a été effectivement le joueur le plus âgé de la dernière Coupe du Monde en 2018. Il avait 45 ans, ce qui est effectivement assez vieux. Il nous a prêté ses gants et son maillot qu'il avait justement à la dernière Coupe du Monde. Mais c'est intéressant de montrer que cette passion pour le football, elle est toujours très vivante et qu'elle touche tout le monde, en fait. C'est vraiment le lien par le football, c'est comment ce sport arrive à fédérer tout un pays, toute une ville, toute une population. Et ça, c'est extrêmement fort en Égypte.
Et du coup, l'Égypte aussi permet d'aborder la dimension politique que représente le foot dans le monde arabe. Pas que dans le monde arabe, mais dans le monde arabe, notamment ces 10 dernières années, consacrer une partie de l'exposition sur le foot et le printemps arabe de 2011. Et on a presque envie de dire le printemps arabe de 2019 aussi, ouais. Puisque c'est en train d'arriver.
Oui, en fait, on a, parmi nos 11 histoires, on voulait consacrer une de nos histoires au supporterisme et aux ultras. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis 2002-2003, donc il y a effectivement un certain nombre de groupes ultras dans le monde arabe. Et ces ultras, eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué parce que dans beaucoup de pays, ils sont interdits. Ils ont subi pas mal de répressions policières. Il y a eu beaucoup d'incidents.
Oui, il y a eu des drames aussi, comme à Port Saïd,
voilà,
beaucoup de morts.
Ouais, il y a eu des drames. Effectivement, à Port Saïd, il y a quand même eu 72 morts à l'issue d'un match, ce qui est considérable. Donc on parle aussi de ça dans l'exposition, parce que c'est important aussi de ne pas avoir une vision idyllique non plus de ce qui se passe autour du football. Il y a aussi des groupes ultras qui sont structurés, qui sont très politisés. On a vu qu'ils ont accompagné les printemps arabes. Donc ça, c'est très clair, que ce soit en Tunisie, en Égypte et encore aujourd'hui en Algérie, avec ce qui se passe, les premières revendications sont apparues dans les stades. Les premiers slogans, c'est dans les stades qu'on les a entendus, avant de descendre dans la rue. Et ça, effectivement, je crois que c'est extrêmement important, dans une exposition comme la nôtre, de parler de cette dimension politique du football, qui est très très forte en fait dans le monde arabe et peut-être plus qu'ailleurs.
Oui, parce que finalement le stade, c'est l'agora, finalement à la grecque. C'est là où on peut s'exprimer sans crainte d'être identifié trop vite, d'être embarqué par la police, parce que forcément quand il y a 80 000 supporters, c'est un peu plus dur d'intervenir.
Exactement. C'est souvent des pays où c'est pas si simple d'avoir une parole libérée et le stade permet, en fait. Le stade, le groupe, la masse fait aussi qu'on se permet plus de choses dans les stades, que c'est un espace de liberté, que c'est un espace d'expression. Et c'est comme ça, en fait, aussi, qu'on a vu poindre certains slogans politiques. Donc ça, effectivement, c'est une dimension qu'on a certainement oubliée, nous, en Europe, cette importance de ce rassemblement à travers le sport, à travers le football, fait que finalement, oui, ça a un impact aussi sur la politique de tout un pays.
Le foot et le monde arabe à l'Institut du même nom, c'est à Paris jusqu'à la fin du mois de juillet. On a toujours l'impression que les acteurs qu'on aime sont immortels. Voilà ce que disait le réalisateur français Patrice Lecomte. C'était mercredi, à l'annonce de la disparition de Jean-Pierre Mariel, grande, grande figure du cinéma français, du théâtre aussi, qui l'aura marqué de sa voix caverneuse. Jean-Pierre Mariel, décédé à l'âge de 87 ans, une voix que l'on reconnaît, que l'on aime réentendre, notamment avec ce petit extrait du film « Coup de torchon » avec Philippe Noiret, lui aussi disparu.
Monsieur, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme but dans la vie?
Pas toujours, hein.
Est-ce que ça suffit à nous excuser?
Est-ce qu'on excuse un poteau de remplir un trou?
Oui, mais ce n'est pas comparable. Un poteau est un objet inanimé.
Et alors, est-ce que nous ne sommes pas tous plus ou moins inanimés, Georges?
C'est quand même une drôle de journée. Je me suis fait traiter de fantôme toute la journée, j'ai bu un litre de ratafia, j'ai entendu des choses, je ne sais même pas si je les ai vraiment entendues. Mais je ne regrette pas.
Je connais l'assassin de mon frère.
Ah bon? Qui c'est?
Mais c'est toi qui me l'as dit.
Ah ben ça m'est sorti de la tête ce que je t'ai dit. Ça te ferait rien de me le redire?
Non, ben peu importe ce que je t'ai dit, ce qui compte c'est ce que je t'ai pas dit.
Mais qu'est-ce que tu ne m'as pas dit?
Ton frère et son copain. Je les ai vus tous les deux bien vivants le lendemain du crime.
Un petit extrait donc du coup de torchon de Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Mariel et Philippe Noiret, tous deux disparus maintenant.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
Maluma, c'est sa dernière chanson, le clip en duo avec Madonna. Maluma qui sera en concert, ce sera le 29 juin prochain, donc à Rabat pour le festival de ma voisine. D'ailleurs, ce sera la clôture. Ça commence la semaine prochaine, face à la mer, c'est à Tanger. Les rencontres professionnelles de la photographie, c'est une première qui va se dérouler dans la ville du Détroit. Je l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, à partir du 1er mai, une occasion de faire se rencontrer des photographes du Maghreb avec d'autres professionnels. Ils viennent de différents supports, de différents pays européens, notamment des Français, des représentants du quotidien Libération, Géo ou Afrique Magazine, Diptyque Magazine, l'agence photo aussi, Hans Lucas, pour ne citer que. Alors le maître mot, c'est l'échange, des rencontres qui sont proposées par Yamna Mostafa et Wilfried Estève.
La première raison en fait de la création de ces rencontres, elle est simple. Je dirige par ailleurs une agence photo qui s'appelle Antsoukas. On a développé en 2018 un site dédié à la Méditerranée, Antsoukas Méditerranée. Et il se trouve que j'ai eu beaucoup de demandes de professionnels venant du Maghreb avec des grosses problématiques sur des fondamentaux, une méconnaissance du marché dans lequel ils se projetaient, le marché français. Pour le coup, Camina m'a sollicité, parce que c'est elle qui m'a fait venir à Tanger, sur une problématique de créer des rencontres photos, sachant un petit peu tout ce qui se passait au niveau professionnel dans le Maghreb. Pour moi, il m'a paru évident d'être sur de la professionnalisation, de la rencontre, de la formation, sur des photographes. Alors, il y a trois types de photographes. Il y a des photographes qui vont venir de France, il y a des photographes marocains, tangérois, mais aussi qui vont venir de Casa et d'ailleurs, des Algériens aussi qui se déplacent pas mal, et quelques Tunisiens. Donc la première raison pour moi, c'était une raison qui était liée à la formation, à la pratique photo en fait.
Ça veut dire qu'il y a un manque de formation, enfin je veux dire, il y avait une demande par rapport à cela, ou alors c'est un constat que vous avez fait avec Yamna?
Le constat est venu de par le fait d'avoir ce manque de moyens de pouvoir accéder à un travail, pouvoir évoluer dans la vie. La photo, parce que j'ai toujours aimé ça, et l'idée c'était d'être confronté à des personnes qui aiment leur territoire, qui aiment leur pays, mais qui n'ont pas les moyens de travailler. Donc, en fait, on est parti du principe que quand on ne peut pas sortir d'un territoire, amenant les personnes avec qui on peut travailler sur ce territoire. Tanger, parce que j'aime Tanger depuis 10 ans et que j'y vis, j'ai essayé de mélanger un petit peu ce que j'aimais dans la vie et j'ai choisi ce territoire.
Pour ces photographes donc du Maghreb, néophytes peut-être un petit peu par rapport à un marché, se vendre, se faire reconnaître, se faire accepter. Enfin voilà. Est-ce que c'est un petit peu une espèce de foire aux questions et qui vont avoir les vraies réponses, quoi. C'est-à-dire au niveau professionnel, comment se démarquer, se vendre.
Exactement.
Comment commercialiser ces photos, comment identifier le marché dans lequel on se projette, qui on va identifier au sein de rédaction. D'ailleurs, il y a des rédactions qui viennent, qui se déplacent. Il y a Libération.
Oui, très bien.
Il y a Polka qui vient. Il y a Géo qui sera là. Après, il y a des partenaires marocains aussi. Il y a Diptyque Magazine qui sera là. La Fondation Alliance avec le Macal qui sera là. Enfin, qui sont Nathalie Locatelli.
Tous ces noms nous parlent. Hein.
Oui.
Bravo.
Nathalie Locatelli de la Galerie 127. Donc, c'est des gens qui, que ce soit sur des problématiques de territoire liées au Maroc ou alors à l'étranger, ont vraiment quelque chose à dire. Il y a Afrique Magazine aussi qui sera là, qui va expliquer comment démarcher en tant qu'indépendant leur rédaction, leur groupe.
Quel âge ils ont ces photographes du Maghreb? Enfin, très jeunes, ou alors c'est des gens qui ont un petit peu, entre guillemets, bourlingué, qui s'aperçoivent qu'effectivement, il leur manque des clés pour ouvrir certaines portes professionnelles.
Ouais, non, ce qui est amusant, enfin, moi, ça me fait rire jaune, entre guillemets, c'est parce que je les suis sur Facebook, notamment, les réseaux sociaux, et évidemment, ils font des photos, alors que ce soit des rassemblements, des mouvements, que ce soit en Algérie ou ailleurs. C'est très bien, ils la postent sur Facebook, ça les satisfait. Moi, non, parce que c'est des photos qui sont gracieuses, ils n'en tirent pas profit, ils ne les vendent pas professionnellement, c'est pas très intéressant. Donc nous, on va leur expliquer quelques règles entre guillemets de bonne conduite professionnelle pour éviter, enfin déjà pour tirer des revenus, pour mieux être dans des narrations de séries, savoir à qui s'adresser, et puis évidemment derrière toutes les rencontres qu'il va y avoir, parce qu'il y a des lectures de folio, on espère que ça va aussi déboucher sur des commandes, de la diffusion, de la publication dans des journaux à l'étranger. The time passing fast, the breath. faire des reportages, que ce soit avec un téléphone portable ou un matériel, un réflexe professionnel, c'est pas le problème. Le problème, c'est le fond et la forme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut raconter, servir quelle histoire, quelle narration, avec quand même des règles de déontologie, pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est très important. Donc, avec un téléphone portable ou autre, c'est très bien. Par contre, attention à ce qu'on fait derrière.
Est-ce que ce sont des photoreporters, des journalistes à qui vous vous adressez, Yamna ?
Au Maghreb, on n'est pas encore sur ce registre de photographes, en fait, puisqu'il n'y a pas de formation réelle. Ils sont en découverte de leur travail. Wilfried disait particulièrement, ils ont un côté un peu plus humaniste. Alors, voilà aussi l'importance, en fait, de mélanger les différents regards de Méditerranée. L'importance est là. C'est-à-dire que, souvent, je discute beaucoup avec les photographes de part et d'autre. Les photographes en France ont parfois un peu ce côté désabusé, où tout est compliqué, où tout est trop dur, où tout est trop ci, où tout est trop là. Et ici, en fait, ils ont un regard qui est peut-être un peu utopique, humaniste, mais ils ont envie. Et je pense que de réunir ces deux côtés de la Méditerranée, cette double culture que nous avons tous, parce que je pense que nous avons une culture méditerranéenne assez forte, va peut-être aussi recréer quelque chose autour de tout ça, tant professionnellement qu'humainement.
De l'Algérie, il y a eu la Tunisie, bon, ça remonte peut-être un petit peu à loin, il y a la Libye en ce moment. Est-ce que ça, c'est le genre de sujet qui revient toujours un petit peu dans la boucle, c'est-à-dire les manifestations, les révolutions?
Alors, malheureusement, je dis malheureusement, oui, c'est une boucle sans fin, en fait, de traiter de l'actualité. Le malheureusement, c'est oui, c'est bien l'actualité, mais après, évidemment, il faut aller sur d'autres types de sujets. On parlait des différentes écritures. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a des démarches très humaniste, mais il y en a certains qui font du documentaire sur ce qui s'est passé en Algérie. Il y a du photojournalisme qui est remonté, pas mal, tant mieux. Après, il y a des choses plus contemporaines, artistiques. En fait, on croise beaucoup de choses. Tous ces types d'écriture, en fait, cohabitent. Je pense qu'ils ne se posent pas trop la question de savoir comment se situer. Nous, on va un petit peu amener quelques bases sur ce qu'est la photographie et ce qu'est le marché, parce qu'il faut toujours revenir aux clients que sont les médias, tout en s'affirmant, c'est-à-dire qu'on n'est pas spectateur de son parcours professionnel, on en est acteur, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se plier à des commandes, mais derrière, il faut faire des propositions. Tout ça, ça va faire quand même l'objet de 9 ateliers. Les photographes qui sont venus de France, en fait, ils vont apporter aussi une vision quotidienne de leur labeur en France. Donc, c'est bien parce que ça va un peu modérer les gens de rédaction qui seront là et ces photographes maghrébins qui ont, je pense, beaucoup d'espérance, comme peut avoir tout photographe naissant, quoi. Donc, on va essayer de croiser les trois types de témoignages. Des photographes qui ont une réalité du marché français qui est compliquée, qui est dure. Les rédacteurs et les iconographes, et pitchers, éditeurs et chefs de service photo. Et ces professionnels maghrébins qui vont arriver. Mais bon, pour certains, ils sont déjà un peu rodés au marché français. Pour certains. Et...
Ces professionnels qui vont être présents vont être confrontés avec le regard des photographes sur leur territoire. Ouais. Ce ne sont plus des photographes de nos pays, en Europe, qui vont sur ces territoires pour vendre les images sur des événements. Là, pour le coup, on a les vrais regards. Et c'est là la pertinence de tout ça, en fait. C'est comme presque si on ouvrait une école, quoi.
Oui, c'est vrai, il y a un côté formation, enfin école. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des photographes français qui viennent pour voir un petit peu ce qui se passe au Maroc, notamment pour les fondations et les galeries. Donc ça va matcher dans tous les sens. En
fait. Avec quoi vous avez envie qu'ils repartent, entre guillemets, dans la tête, quoi?
Ce qui est important, c'est qu'ils se disent qu'on s'intéresse à eux sur leur territoire, qu'ils peuvent aussi se former de par leurs propres moyens, de devenir indépendants face à leur avenir, de ne pas attendre qu'ils se prennent en main individuellement. Et que tout est possible, en fait. Il suffit juste de faire des passerelles.
C'est vrai que, pour rejoindre ce que dit Yamna, l'horizon des possibles va, j'espère, s'élargir pour la plupart d'entre eux. Et il y aura des réponses à des questions. Et on ne va plus être sur des problématiques, en fait.
Et du coup, ils s'ouvriront leurs frontières eux-mêmes. Du moment où ils auront les moyens de pouvoir travailler, de pouvoir accéder à quelque chose, ils se donneront les moyens de voyager de l'autre côté. et de revenir chez eux parce qu'ils seront heureux sur leur territoire.
Yamna Mostefa et Wilfried Estève pour ces rencontres professionnelles de la photographie face à la mer à Tanger, un événement qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'Institut culturel français au Maroc, main dans la main aussi avec la Cinémathèque de Tanger, le Musée de la Casbah où vont se dérouler les tables rondes et puis le CFPJ, c'est le centre de formation pour les journalistes puisque l'un des photographes repartira avec un prix. Le coup d'envoi de ces rencontres, c'est mercredi, ça se passe à la Cinémathèque de Tanger. Tout le programme sur leur site internet, très complet, rencontre-facealamer.com.
Bain de culture, le concert.
Les Amazones d'Afrique sur Médien, ce sera le 24 juin sur la scène du Bourré Greg à Mawazine. Le lendemain sur la scène de l'OLM Suissi, rendez-vous avec les Black Eyed Peas. Visiblement, Gaëtan Plené sera au premier rang.
J'ai la sensation que cette 18e édition du festival Mawazine va encore marquer les esprits avec The Black Eyed Peas. Le groupe se produira sur la scène OLM Suissi le mardi 25 juin. Reste maintenant à savoir quels titres Will.i.am, Apple Diap ou encore Tabou choisiront d'interpréter. Et le suspense est intact tant la discographie est grande. À noter quand même cette longue absence de The Black Eyed Peas dans les bacs, pas de nouvel album entre 2010 et 2018. Le rappeur Tabou souffre alors d'un cancer. Et puis l'an dernier, The Black Eyed Peas ravit tout le monde avec un nouvel album, Masters of Sun Volume 1, une sorte de retour aux sources. C'est donc cet album que vous devriez entendre à Rabat en juin pour le Mawazine, un événement qui se veut synonyme de paix et de respect. Autant de valeurs qui touchent particulièrement Will.i.am, membre fondateur. Pour lui, la musique peut changer les choses, comme il le déclarait il y a quelques mois dans une interview pour Pure Charts.
Des personnes comme Bob Marley nous l'ont déjà prouvé dans le passé, des gens comme Bob Dylan et Michael Jackson aussi. Vous savez, il y a un nombre incalculable d'artistes qui se sont servis de leur notoriété, de leur voix pour éduquer, inspirer et responsabiliser les gens. Donc oui, je crois vraiment que la musique a cette capacité de faire bouger les choses et d'éveiller les consciences.
Éveiller les consciences et retenir l'attention de Black Eyed Peas y arrivera à coup sûr à Rabat, fort de ses 25 années de carrière et de ses 35 millions d'albums vendus.
Le festival Mawazine Rythme du Monde, c'est la 18e édition à partir du 21 juin à Rabat et à Salé. Plus de 2,5 millions de spectateurs attendus. Toute la programmation sur leur site officiel. Je vous souhaite un excellent week-end.